10h41 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Mathias Turcotte, Max Larouche avec vous pour les deux prochaines semaines. Après ça, le Point de Max va se poursuivre pour une couple de semaines, mais ce sera... Non?
Ouais.
Ça a l'air que non? Je vais rechecker l'horaire. Ben, on s'en repart.
En gros, après ça, de ce que je comprends, de 10h à 11h, vous allez être accompagné de
C'est pas... qui, vous? Ah, oh, les auditeurs.
Les auditeurs.
Si tu me parlais à moi, moi, je suis pas là entre 10h et 11h.
C'est ça, toi, tu vas...
M'en va dans le retour.
Ouais, c'est ça. Tu vas sûrement être arrivé pour faire ta préparation. Mais je vais être avec Pascal de 11h à 14h.
OK. Fait que
donc,
c'est ça.
De
c'est
10 à 11,
un genre de mélange.
En jazz puis de
Parfait.
Point de Max.
Bon, ben merci Mathias Turcotte, toujours là pour revenir rectifier les faits. 88-971-1021, donc le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. N'hésitez jamais à le faire, notamment si vous avez des questions pour nos pertinents invités. Et l'un d'eux, on lui parle pas mal tous les lundis. Puis là, je suis bien content de savoir qu'il va encore pouvoir garder sa job de chroniqueur politique international parce que quand on se parlait les dernières fois, j'avais un peu peur pour mon ami Georges Mercier en me disant là, clairement, la paix dans le monde s'en vient. Il n'y aura plus vraiment de choses à dire sur la politique internationale. J'avais peur qu'il perde sa chronique qu'il y a tous les matins cet été du côté de Cube au 99.5 Montréal. Je m'inquiétais bien gros. Mais là, Georges Mercier, t'as encore du stock.
Écoute, tu vas me faire passer pour un profiteur de guerre, mais là, tu m'as flatté, tu m'as dit que j'étais pertinent, fait que je le
oui,
prends.
Oui, très pertinent. Puis là, je veux qu'on fasse un petit récapitulatif, parce que moi, j'étais en congé la semaine passée. Bon, je mentirais de dire que j'ai décroché à 100% de l'actualité, là. Je veux dire, l'actualité reste dans le gars pareil, puis je continue de suivre ça, puis j'ai trop écouté la radio pendant mes vacances pareilles. Mais reste que, on dirait que j'ai manqué des bouts, parce que là, il y avait ce fameux protocole d'entente pas clair là, signé entre les États-Unis et l'Iran. Là, on a recommencé à se bombarder, puis là, finalement, Trump a recommencé à dire qu'il allait prendre l'Iran puis tout détruire ça. Puis là, finalement, on a arrêté de se tirer dessus, puis là, on se rend compte demain, mais peut-être pas. Georges Mercier, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, je vous fais la petite histoire du conflit en Iran pour remettre tout ça en perspective. Le 27 février, les Américains, avec Israël, commencent à bombarder l'Iran avec 4 objectifs. On veut la fin du programme nucléaire, on veut la fin des missiles balistiques, on veut la fin du soutien aux milices qui déstabilisent le Moyen-Orient, et on veut à terme peut-être un changement de régime en Iran. On bombarde, on bombarde, on bombarde, on se rend compte au bout d'une couple de semaines que le régime est plus fort qu'on pensait et il résiste au bombardement. Pourquoi? Parce qu'il a un as dans son jeu de cartes, le détroit de Hormuz. Donc le régime ferme ce détroit-là, où passait avant la guerre 20% du pétrole mondial, donc ça cause de graves problèmes économiques. L'objectif de guerre se transforme. On oublie le nucléaire, on oublie les missiles, on oublie les milices. Tout ce qu'on veut faire, c'est rouvrir le détroit pour sauver, en quelque sorte, l'économie mondiale. Il y a un peu plus de 10 jours, on passe un accord avec les Iraniens qui parvient à faire exactement ça. Les Iraniens s'engagent à rouvrir le détroit, les prix du pétrole chutent, les navires recommencent à passer. On pense que tout va bien. Le gros problème, c'est que les Iraniens, ayant compris que leur joker, c'est le détroit de Hormuz, ils veulent garder le contrôle dessus. Et dans l'accord qui a été signé, on disait que le détroit était une responsabilité iranienne. Les Iraniens ont compris ça comme voulant dire « ça nous appartient, c'est nous qui le gérons ». Les Américains ont compris ça comme voulant dire « ne tirez pas des navires dedans, okay? Laissez le monde passer ». Ce qui s'est passé jeudi dernier, la semaine dernière, c'est que du côté de Oman, qui est le pays en face de l'Iran, de l'autre côté du détroit, on a voulu ouvrir un nouveau couloir maritime avec une organisation liée à l'ONU. Et on a dit aux navires, passez par là, ne passez pas proche de l'Iran. Les Iraniens ont vu ça et se sont dit, attention, c'est dangereux, si les navires commencent à passer par ce couloir du sud-là, ça veut dire qu'on a moins de contrôle sur le détroit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent un navire qui passait par là pour réaffirmer leur contrôle. Ils marquent leur territoire, essentiellement. Les Américains répliquent à cette frappe-là, les Iraniens répliquent à la réplique, on réplique, là on se parle hier et cette semaine on devrait se rencontrer peut-être demain pour discuter de la suite des choses. Ce qui est vraiment intéressant avec le conflit en Iran, c'est que d'un côté on a un régime qui veut absolument garder le détroit de Hormuz, de l'autre côté on a des pays occidentaux et des États-Unis qui veulent surtout en ce moment que l'économie reparte et qu'on ne pas repartir en guerre. Et là la question c'est, est-ce qu'à terme les Américains vont donner le contrôle du détroit aux Iraniens qui pourraient imposer des frais ou d'autres types de péages, ou Donald Trump va faire le choix audacieux, vraiment audacieux et dangereux, de relancer les hostilités pour de bon, pour y aller pour de vrai, cette fois-ci, faire peut-être même un débarquement terrestre, retirer le contrôle aux Iraniens et leur enlever ce joker-là. À mon avis, on s'en est une province.
Mais c'est drôle parce que tu dis ça, puis on dirait que depuis le début, on dit qu'on s'enligne pas vers ça, justement, Georges Mercier, parce que ce serait un jeu très, très dangereux. Mais de l'autre côté, plus je regarde ça, plus je me dis, OK, mais là, c'est parce que ça va prendre une fin quelque part. Là. Ça va prendre quelque chose qui se passe, puis là, clairement, ce sera pas un deal où tout le monde va être content. Parce que même avec le fameux protocole d'entente, puis finalement, là, on se rend compte que c'était que du vent parce qu'on s'en fout un peu, là. Je vois comme pas comment ça peut finir, ce maudit conflit-là, qui dure depuis des semaines et des semaines et des semaines, puis qu'à tous les lundis qu'on se parle, Georges Mercier, on a l'impression de répéter les mêmes affaires, que Trump a fait des grosses menaces, qu'il a reculé, que le détroit d'Ormuz est encore fermé, que ça se tire dessus, mais que ça va se rencontrer bientôt. Je vois pas la fin.
Ben, tu dis qu'il faut le faire quelque part. La fin, ça peut simplement être des intérêts des Américains. Hein? Parce que la semaine dernière, le prix du pétrole au niveau mondial a retrouvé des cours d'avant la guerre. Ça veut dire que le prix du gaz va baisser aux États-Unis, que les craintes inflationnistes qu'on avait vont s'atténuer. Si Donald Trump décide de retirer ses cartes, il dit, écoutez, on laisse les Iraniens gérer ça, ils vont toucher des frais de péage, mais ça va être payant pour eux. Donc, ils vont avoir un intérêt à ne pas le fermer à nouveau, le détroit, s'ils retirent des revenus de ça. L'attention publique passe à autre chose, on n'a pas à avoir un accord de paix complet pour justement passer à autre chose. On a juste besoin de cesser de s'y intéresser, de cesser d'y être investi. Puis Donald Trump, en ce moment, il s'en tire de manière à peu près indemne. Hein? Parce que je reviens au cours du pétrole, qui ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. L'actualité politique américaine va tellement vite que rien ne nous dit que là, cette semaine, on s'entend grosso modo, on ne règle pas la question du nucléaire, on ne règle pas la question des missiles, on ne règle pas les proxys, mais on passe à un autre enjeu géopolitique, peut-être Cuba, peut-être les suites de ce qui se passe au Venezuela, peut-être même que la guerre en Ukraine retrouve le centre d'attention publique, et on a le conflit iranien en suspens, et on revient finalement au statu quo. Mais ce qui est un peu déprimant avec tout ce conflit-là, c'est que récemment, les Iraniens ont exécuté des manifestants pacifiques, ils les pendent. Récemment, vous avez une femme qui a osé chanter sans hijab, qui s'est fait donner 74 coups de fouet, si je ne m'abuse. Donc, c'est un régime qui continue à brimer sa population, qui continue à être obscurantiste, mais manifestement, on n'a pas envie de se battre, je le dis de manière très cynique, on n'a pas envie de se battre pour les droits des Iraniennes et des Iraniens, si ça implique qu'on va payer plus cher pour faire le plein cet été.
On change de sujet, Georges Mercier, on reste du côté des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis qui a autorisé l'administration Trump à révoquer un statut qui protégeait pas moins de 350 000 immigrés haïtiens de l'expulsion. Là, d'ailleurs, on s'attend peut-être à voir pas mal de ce beau monde-là s'en venir nous voir au Canada en étant expulsé des States. À quel point c'est une décision qui est importante?
Mais en fait, ce qui jouait ici, c'était la discrétion de la Maison-Blanche dans la détermination des statuts migratoires. Essentiellement, vous aviez une loi qui permettait à l'administration de désigner certains pays comme des zones à haut risque pour permettre à leurs ressortissants de venir travailler pendant une période plus ou moins longue légalement aux États-Unis. L'enjeu, c'était que, par exemple, en Syrie ou en Haïti, parfois la situation s'améliore. Et une fois que la situation s'améliore, est-ce que la Maison-Blanche peut retirer ce statut-là de protection temporaire à des migrants ou, au contraire, les tribunaux peuvent interférer? Et dire non, tu n'as pas le droit parce que je juge, moi, étant juge, que c'est pas sécuritaire. Ce que la Cour suprême est venue faire, c'est dire non. C'est une prérogative entièrement de l'exécutif. Les tribunaux n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Mais tu sais, tout de suite, Max, tu dis, est-ce que ces gens-là vont être expulsés? Là, il y a la possibilité théorique et légale qu'ils le soient. Mais ce qu'on oublie tout le temps avec les dilemmes migratoires aux États-Unis, c'est que c'est pas les 350 000 Haïtiens qui n'ont pas d'emploi, qui ne contribuent pas à la société américaine. Souvent, ils sont employés, notamment dans le secteur de la santé, et les gens qui les emploient font pression sur la Maison-Blanche, sur leurs représentants, pour qu'ils restent, right? Parce qu'ils contribuent à l'économie. Ça a toujours été un peu ça l'enjeu avec la politique migratoire de Trump, notamment lorsqu'il voulait déporter des sans-papiers qui travaillaient dans l'hôtellerie ou dans le secteur agricole. Les gens lui ont dit, écoutez, j'en ai besoin de ces employés-là, et on s'est calmé sur ces déportations-là. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu victoire juridique qu'il va nécessairement y avoir déportation. On peut être moins craintif à ce sujet.
Mais même s'il n'y a pas nécessairement de déportation, il y a quand même, on va s'entendre, un mouvement migratoire qui pourrait se créer vers le Canada juste parce que maintenant, ces personnes-là peuvent avoir la crainte de se faire déporter, je me trompe?
Oh non, c'est possible qu'il y ait des migrants qui s'en viennent vers le Canada. Mais vous noterez que depuis le retour de Trump à la maison, on n'arrête pas d'en parler de ça. d'une migration qui fuirait les États-Unis pour venir chez nous, même des Américains qui viendraient acheter des maisons ici. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas des mouvements de masse ou des mouvements massifs. Il y a une autre décision, toutefois, qui pourrait être plus dangereuse à ce niveau-là, c'est que la Cour suprême a permis aux États-Unis, à l'administration, de freiner les migrants à la frontière pour les empêcher de venir faire des demandes d'asile sur le territoire américain, notamment à la frontière du Sud. Donc, plutôt que laisser un migrant rentrer sur le territoire pour qu'il saisisse un tribunal pour avoir l'asile, bien, on permet aux gardes frontières américains de le laisser en dehors. Est-ce que ça voudrait dire que d'autres demandeurs d'asile pourraient vouloir passer par le Canada? Ben, ce serait peut-être plus simple que passer par les États-Unis. On verra. Au niveau de la Cour suprême, Donald Trump vient d'avoir tout un revers. Toutefois, bon, la nouvelle est tombée maintenant. Il voulait renvoyer une des membres de la Réserve fédérale américaine, Banque centrale américaine, et la Cour suprême lui a dit non. C'est une institution indépendante. Tu ne peux pas la renvoyer à ta guise, selon ton bon vouloir. Donc ça, c'est un revers pour Trump, qui contrôle moins, mais pour n'importe quel président d'ailleurs, qui contrôle moins maintenant la Réserve fédérale. Donc voilà, un gain et un revers.
Je veux terminer avec ce sujet-là, Georges, parce que ça fait beaucoup la manchette dans les derniers jours, ces températures extrêmes du côté de l'Europe, où, tu sais, c'est pas chic, là. Il y a des morts pis tout, là. C'est pas, il fait chaud une couple de jours pis on a juste à se baigner pis ça va passer, là. Il y a des décès pis c'est vraiment dangereux. Pis il y a un point. En Europe, la climatisation, on dirait qu'au Québec, il fait frette la moitié de l'année, mais on dirait que tout le monde a l'air climatisé pareil. Puis je dis tout le monde, c'est pas tout le monde, je le sais, mais une vaste majorité. Là, ce que je comprends, puis moi, j'ai jamais visité l'Europe, mais c'est pas nécessairement de même en Europe. Fait que quand il fait chaud solide pour du monde, là.
Ah, mais certainement, puis tu disais, on dirait que tout le monde a la clim. Je regardais les chiffres ce matin. Au Canada, c'est environ 70% des ménages qui ont l'air climatisé. En Europe, c'est combien? Un peu moins de 30%. Donc, la climatisation est beaucoup moins bien distribuée. Les bâtiments sont plus vieux, parfois ils sont moins bien aérés. Et donc, il y a un besoin de climatisation. Mais ce qui est intéressant, ça me fait vraiment rire, parce que j'ai habité longtemps en France, puis c'est vrai, quand il fait chaud, il fait chaud. Avoir une unité d'air climatisé, c'est rendu un symbole politique. Parce que si tu as la clim, de plus en plus, tu es quelqu'un de droite. Parce que tu t'adaptes au changement climatique de manière individualiste. Ah, ça, c'est ton petit confort dans ton petit chez-toi. Puis refuser la clim, c'est rendu être une personne de gauche parce que tu refuses la mesure individualiste, tu veux les transformations à grande échelle pour avoir plus de résilience, verdir les villes, bon, tous les trucs qu'on connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a un climat politique qui est tellement polarisé que même un enjeu qui semble assez neutre finalement, est-ce qu'on climatise ou non, est devenu un symbole politique. C'est bien que voilà, ce qui fait beaucoup rire cette semaine, c'est des plateaux de télé de gauche, avec des gens de gauche qui critiquaient la climatisation sur des plateaux climatisés. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu de l'heure chez nos Français. Mais voilà.
Georges Mercier, analyste politique international, toujours un plaisir. On se reparle peut-être lundi prochain.
Quand tu veux, j'essaie d'être pertinent.
En attendant, on peut t'écouter aussi là, tous les matins du côté de Cube et au 99.5 Montréal.
Tous les matins à 6h30 à Cube et à 9h à LCN.
Nice. Merci, Georges Mercier.
À bientôt.
Au retour de la pause, quoique Mathias, tu me dis qu'il y a de la circulation à faire.
Oui, juste vous dire, Henri IV, direction sud, à hauteur du versant nord, voie de gauche qui est présentement bloquée en raison d'un accident. Puis c'est sûr que ça crée un fort ralentissement dans le secteur. Là, présentement, ça part de versant nord, puis c'est par choc à par choc, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel et ça devrait s'empirer au cours des prochaines minutes.
Québec solidaire veut imposer 100% du gain en capital lors de la vente d'un actif immobilier, même pour les petits investisseurs. C'est une mesure qui fait jaser. On en parle au retour avec la co-porte-parole de QS, Ruba Gazal. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, 10h05. 45 minutes. Le point de match.